et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique en direct sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Et ensemble, nous recevons Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti Socialiste. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors un jour, je vous ai demandé ce que vous aviez fait de votre passé trotskiste. Vous m'avez répondu « je le garde dans ma poche ». Alors il doit être vraiment caché dans la doublure aujourd'hui, car vous êtes devenu avec l'âge un fervent défenseur de la social-démocratie à la sauce Hollande, premier secrétaire chez les socialistes, plus divisé que jamais, c'est le pire des jobs aujourd'hui. François Hollande s'est longtemps demandé s'il pouvait vous faire confiance et si vous étiez loyal. La réponse est oui, car vous êtes le chef de l'opération survie du peut-être candidat Hollande. Et depuis quelques jours, vous concentrez vos tirs sur Alain Juppé après avoir canardé Sarkozy. Et vous vous inquiétez du succès du jeune Macron. On parlera de tout ça, mais on parlera aussi de l'annulation du voyage de Vladimir Poutine à Paris. Et puis, nous sommes ensemble donc jusqu'à 19h. C'est parti. La première question vous est posée par Frédéric Rivière.
Bonsoir Jean-Christophe Cambadélis.
Bonsoir.
L'agression de policiers dans l'Essonne a provoqué une très vive émotion. Et les termes qu'a employés le ministre de l'Intérieur pour qualifier cette agression ont provoqué eux aussi des réactions très vives. On écoute Bernard Cazeneuve, vous nous direz ensuite ce que vous pensez de ces termes.
Ils ont été confrontés à une bande de sauvageons qui ont agi avec lâcheté.
Les mots ont leur importance, Jean-Christophe Cambadélis. Bernard Cazeneuve parle de sauvageons, pourquoi pas des garnements, des galopins, des chenapans. Vous ne trouvez pas que c'est faible tout de même ?
Bon, je vous trouve sévère. Sauvageons est une expression que Jean-Pierre Chevènement avait déjà employée en son temps et on l'avait trouvée juste.
Mais la violence était-elle la même à l'époque ?
Elle était déjà très, très, très forte.
C'était des petits loulous de banlieue à l'époque. C'était pas des jeunes qui cramaient des policiers dans une voiture.
Qu'on cherche vraiment querelle sur des mots qui n'ont pas vocation à adoucir l'acte, puisqu'on dit que c'est un acte lâche. Fait par des sauvages, pour ne pas employer le terme barbare, qui était le terme employé par Nicolas Sarkozy. Je pense qu'au fond, tout le monde est d'accord sur le fait que c'est un acte inqualifiable et que ces gens qui sont intervenus avaient envie de tuer. C'est ça quand même qui est important.
Mais au-delà du choix des mots, on a le sentiment que la gauche a encore du mal à nommer les choses, qu'elle a du mal à accepter la réalité. C'était un vieux procès qui est fait à la gauche sur la sécurité. Est-ce que c'est pas un peu une maladie chronique des socialistes ?
Je crois que tout ceci est depuis très longtemps derrière nous. D'abord parce qu'il y a eu Jean-Pierre Chevènement et Lionel Jospin avec les prises de position qu'on connaît à l'époque. Et aujourd'hui, honnêtement...
Après... Lionel Jospin, ça a été aussi le sentiment d'insécurité.
Oui, mais d'abord, il y avait un sentiment d'insécurité, même s'il y avait de l'insécurité. Oui. Il y avait en plus un sentiment qui avait été déployé à travers les médias sur une triste affaire à l'époque. Mais là, je ne crois pas. Je ne pense pas qu'on puisse faire ce procès, on en fait beaucoup, faire ce procès à la gauche.
On va écouter aussi Manuel Valls sur ce sujet. Écoutez-le.
Il n'y a pas de zone de non-droit. Et je veux le dire très clairement à mes compatriotes, que je n'accepte pas ces analyses-là. Pourquoi ces individus agissent ainsi ? C'est parce que la police fait son travail. Elle fait son travail.
Alors, il n'y a pas de zone de non-droit en France. Êtes-vous sûr de ça ? Et est-ce que les Français vont l'entendre de cette même oreille ?
Il n'y a pas de zone de non-droit, c'est-à-dire que la police est présente partout où il y a un besoin, une nécessité ou des problèmes de sécurité.
Oui, mais il y a précisément la peur du policier, donc il y a un manquement d'autorité de l'État.
Mais si, précisément là, dans ce qui s'est passé, c'est parce que, comme le dit très justement le Premier ministre, les policiers faisaient leur travail et que ceci gênait vraisemblablement une petite bande de voyous qui voulaient qu'il n'y ait pas de policiers à l'horizon pour pouvoir continuer leur trafic. Je suppose que c'est ça qu'il y avait derrière. Donc non, il y a bien longtemps que la police a reconquis, et c'est pas simplement sous ce quinquennat, un certain nombre de quartiers qui étaient des zones de non-droit.
Mais quand vous dites il n'y a pas de zone de non-droit, il va de soi qu'il n'y a pas de zone dans lesquelles l'État reconnaissent que le droit ne s'applique pas.
Absolument.
Ça, c'est la théorie. Mais de facto, il y a des zones de non-droit. Les policiers disent, par exemple, dans l'Essonne, dans cette cité, à moins de 30, on ne peut pas y entrer.
Oui, mais on y rentre.
Et les habitants de ces cités, eux, constatent qu'ils habitent dans des zones dans lesquelles le droit ne s'exerce pas.
Attendez, il y a deux choses différentes. Le fait que si la police veut y rentrer pour faire appliquer une décision de justice, on y rentre, on y met les moyens et on y rentre.
Force majeure.
Deuxième banc, la question qui pourrait être posée, c'est celle d'un commissariat ou d'une antenne de police dans cette barre ou dans ce quartier. C'est la volonté compréhensible d'un certain nombre de nos concitoyens de voir la police à demeure tout le temps auprès de chez eux. Mais nous savons que ceci n'est pas possible parce que nous n'avons pas les moyens financiers de mettre dans chaque bar de France ou dans chaque quartier commissariat de police.
J'entends bien, mais plus précisément, est-ce que, ou plus fondamentalement, est-ce qu'on l'a vu, c'est crescendo quand même. On se souvient de ce policier qui avait été battu à coups de barre de fer. Est-ce que il n'y a pas un sentiment d'impunité chez les jeunes, qu'ils soient des jeunes de banlieue, des jeunes d'extrême gauche, des jeunes d'extrême droite, un sentiment que l'État, dans le fond, ne fait plus peur et que la police ne fait plus peur?
Non, je pense que j'entends ce raisonnement, il est déployé, il est entendable. Mais je pense qu'on fait une erreur de diagnostic. Mm-hmm. C'est notre société qui est devenue de plus en plus violente. Et le passage à l'acte, aujourd'hui, est de plus en plus clair. Je ne mets pas les choses sur le même plan, mais pour qu'on puisse comprendre. À la fin d'une manifestation de salariés contre une loi de la République, on peut incendier une voiture de police avec des policiers à l'intérieur. On peut s'en prendre, même tirer sur des permanences du Parti Socialiste, voire chercher à interdire leur réunion. C'est encore le cas il y a quelques jours. Et quand on est dans un quartier, eh bien, on n'est pas mécontent de la présence policière et on peut attaquer. Tout cela, c'est une montée de la violence dans notre société.
Mais qu'est-ce que elle ça nous parfois dit sur l'état de notre pays, ça?
J'allais précisément le dire. Ça nous dit beaucoup de choses. Parce que cette violence, elle est verbale, elle s'exprime parfois entre politiques, et elle est symbolique et maintenant réelle. Et on voit comment la tension monte dans notre société. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est ça qu'il faut voir, et pas simplement la démission de tel ou tel par rapport aux actes de violence.
Alors, plus concrètement, pour les policiers, faut-il revoir le sujet de la légitime défense? Parce que les règles sont les mêmes, dans le fond, que pour le citoyen que pour le policier. Est-ce qu'il faut revoir ces règles?
Si vous observez ce qui s'est passé dans le cas d'espèce, moi, j'ai trouvé les policiers extrêmement courageux. Ils n'ont pas fait état de... Ils n'ont pas dégainé, ils n'ont pas sorti leurs armes.
Mais ils n'ont pas eu le temps.
Si, puisque la déposition...
Mais la question, je pense, c'est plutôt, est-ce qu'ils auraient dû faire
la déposition, c'est qu'ils se sont posés. Enfin, ils sont posés très rapidement, parce que c'est dans ce cas de violence, etc. Mais ils n'ont pas voulu faire appel à leur arme.
Et puis, ils sont sortis... Il est question de vie ou de mort, là, dans ce cas-là. Enfin...
Mais bien sûr, il est question de vie ou de mort. Et s'ils avaient fait usage de leur arme, ils étaient là plus qu'en légitime défense. Mais ce que je voulais expliquer par là, c'est que ce n'est pas en donnant ou en disant qu'ils peuvent faire usage de leur arme, quelles que soient les situations, qu'on réglera le problème.
Non, regardez, assouplir les conditions du recours à l'arme de service, peut-être.
Regardez ce qui se passe aux États-Unis. on a assoupli.
On est dans l'excès inverse.
Bon, et ben voilà. Oui. Donc il faut, sur ces questions-là, moi je suis pas contre, je suis pour étudier tout ce qui permet à notre force de l'ordre d'être en situation de sécurité pour exercer la sécurité, mais attention.
Mais aujourd'hui, c'est il y a un policier qui est entre la vie et la mort.
Mais bien sûr, mais
je
le regrette.
Voulu, et... Peut-être parce qu'il n'a pas voulu recourir à son arme de service.
Pour celui-ci, parce qu'il n'a pas eu le temps.
Oui, mais Jean-Christophe Comadelli, ce n'est pas raccord avec votre explication qui est vraie, qui est une réalité, que la société est de plus en plus violente. Si elle est de plus en plus violente, est-ce qu'il ne faut pas, dans ce cas, que les policiers...
On ne peut pas répondre en disant la société est de plus en plus violente. Donc, il faut pouvoir exercer une plus grande violence vis-à-vis de nos concitoyens.
On peut se poser
la question, évidemment, mais je dis à tout le monde, réfléchissons, ne nous précipitons pas face à un drame intolérable et inacceptable. Je prends l'exemple des États-Unis, on est dans l'excès inverse. Aujourd'hui, on a des émeutes parce que les policiers font usage un peu trop rapidement de leur arme à feu.
Alors, l'autre sujet qui a été évoqué presque aussitôt, c'est la question de la légalisation ou de la dépénalisation du cannabis. Jean-Marie Le Guen, par exemple, le ministre des Relations avec le Parlement, y est favorable. Benoît Hamon aussi. Est-ce que ce serait un moyen de mettre un terme au trafic et donc de stabiliser ces quartiers qui sont devenus extrêmement difficiles pour beaucoup d'entre eux aujourd'hui?
C'est un moyen paradoxal. Parce que si vous avez la légalisation, vous aurez d'autres drogues qui ne seront pas légalisées. Vous aurez exactement le même...
Ces autres drogues, elles existent déjà.
Dans une moindre mesure. Le combat qui existe dans un certain nombre de quartiers sur la question du cannabis. Moi, je suis là aussi très prudent sur ce débat. Je ne crois pas à la clé magique d'une légalisation qui permettrait de régler tous les problèmes que nous connaissons dans ces quartiers.
Alors, l'autre actualité, c'est la visite de Vladimir Poutine à Paris, qui a été reportée. Il devait inaugurer un centre culturel orthodoxe à Paris, alors que les Russes bombardent la ville martyre d'Alep, en Syrie. La France considère que des crimes de guerre sont imputables à la Russie. Vladimir Poutine, donc, reporte sa visite. Il a dit « quand je viendrai quand le président Hollande sera plus à l'aise ou sera après. » Et voici ce que disait ce matin François Hollande.
Avec la Russie, la France a un désaccord majeur sur la Syrie. Je suis donc prêt à tout moment à rencontrer le président Poutine. Mais si nous avons la possibilité de faire avancer la cause de la paix, de faire cesser les bombardements.
Voilà, donc si chacun est d'accord pour rencontrer l'autre, pourquoi cette visite est annulée alors? Tout le monde dit ouf en fait, surtout l'Élysée.
Il y avait, comme vous l'avez justement dit, une inauguration, donc on allait déplier le tapis rouge, boire quelques verres de champagne et de vodka,
etc.
Non, c'est pas tellement le problème, c'est que dans ce moment-là, c'était pas acceptable. Dans le moment de bombardement d'Alep, ce n'était pas acceptable.
Il n'était peut-être pas obligé d'aller manger des petits fours, d'aller grignoter des petits fours avec Poutine et l'inviter à l'Élysée au préalable.
Bien, vous avez parfaitement raison. Donc c'est la raison pour laquelle François Hollande a dit « si le président Poutine vient à Paris, je le recevrai par ailleurs » pour que nous ayons une franche explication. D'ailleurs, l'ambassadeur de Russie en France a dit exactement la même chose, donc qu'il était prêt, Monsieur Poutine, à discuter sérieusement avec François Hollande sur la situation en Syrie. C'est plus qu'un désaccord.
Mais il y a urgence à discuter. Et s'il était venu le 19, Vladimir Poutine, ils auraient pu parler à ce moment-là.
C'est pas de la faute de François Hollande.
Il a hésité.
François Hollande.
Parce que la diplomatie, elle se fait aussi comme ça, en marge d'une...
Non, il n'a pas hésité. Il a dit « Je ne peux pas recevoir M. Poutine pour une inauguration, mais je suis prêt. »
Non, il a dit à TMC, chez Yann Barthès, « Je m'interroge ». Il a été
S'interroger, ça veut dire quand vous êtes président de la République...
Mais s'interroger tout haut. Quand on est président de la République, est-ce qu'on doit faire de part de ces doutes diplomatiques quand on dirige le pays?
Bien sûr que oui, on peut le faire à partir du moment où ça fait partie de la diplomatie et que c'est une manière d'indiquer un message à votre partenaire que vous ne souhaitez pas le recevoir. Je m'interroge, ça veut pas dire je fais un bras d'honneur, je m'interroge. Donc ça veut dire si tu viens, on a une discussion sérieuse.
Et donc vous pensez que Vladimir Poutine n'avait pas envie d'avoir une discussion sérieuse?
Pas à ce moment-là. Sinon, il serait venu.
Ouais. Il faut quand même discuter avec la Russie.
Bien sûr qu'il faut discuter avec la Russie, mais il ne faut pas discuter avec la Russie pour accepter ce qu'elle dit. Il faut discuter avec la Russie à partir de ce qui est notre intérêt. Et notre intérêt, c'est que la guerre en Syrie s'arrête.
Alors aujourd'hui, cette question aujourd'hui est devenue une ligne de fracture extrêmement forte entre la droite et la gauche. Écoutez ce que disait François Fillon à ce propos ce matin.
Mais bien sûr qu'il doit accueillir le président russe. Qu'est-ce qu'on va faire, la guerre avec la Russie ?
Vous dites, vous disiez, il y a une poutinisation des esprits.
On parle de l'homme qui est le plus proche de Vladimir Poutine.
C'est lui faire beaucoup d'honneur, François Fillon.
Mais c'est vrai, il l'assume. C'est sa conception géopolitique. Il a été dans le Moyen-Orient, défendu cette position. Il a estimé qu'il fallait discuter avec Monsieur Poutine. Il a estimé que au moment de l'affaire ukrainienne, nous étions trop favorables aux occidentaux et aux Ukrainiens plutôt que vis-à-vis de la Russie, ainsi de suite, etc. Pour lui, la question de la Russie est une question réglée. Il faut être dans le camp de la Russie. Bon, bah, ça, on peut avoir un désaccord. C'est pour quand même en discuter de cela. Alors, une chose est-ce qu'il faut ou pas discuter avec Poutine ? Enfin, franchement, François Hollande discute avec Poutine. C'est pas un problème. Mais est-ce qu'il faut, quand on discute avec Poutine, partager son avis ou lui dire de cesser de bombarder Alep. Mais moi, je suis du côté de ceux qui disent qu'il faut cesser de bombarder.
François Hollande appelait de ses voeux une grande coalition avec la Russie dans son discours devant le Congrès, quelques jours après les attentats de novembre.
Bien sûr.
Elle ne s'est pas faite.
Mais non, elle ne s'est pas faite.
Mais
c'est pas
la faute à Poutine.
La faute pas à François Hollande, c'est la faute à Poutine.
Mais c'est pas un peu facile, ça.
Mais non, c'est pas un peu facile.
Pour se retrouver, il faut avancer l'un vers l'autre, quoi. En
fait. Mais c'est ce qui a été fait. Il me semble que François Hollande a pris l'avion et il a été le voir. Il lui a fait des propositions. Mais M. Poutine, ce qui est aussi compréhensible, a des intérêts au Moyen-Orient et il estime que là-bas, il va pouvoir se réinsérer dans ce conflit. Et à partir de là, il soutient un régime qui est barbare, qui assassine, qui tue et qui envoie des gaz toxiques sur les populations. On est obligé de le constater. Et il le fait en toute impunité parce qu'il a le soutien de la Russie qui a le droit de veto au Conseil de sécurité.
Mais c'est vrai que les États-Unis ne discutent plus. Il y a des ruptures du dialogue entre Washington et Moscou. Est-ce que, dans le fond, François Hollande ne se sent pas obligé, peut-être, de suivre la ligne américaine ?
Je ferai remarquer quand même que François Hollande a été celui qui proposait de bombarder le régime de Bachar el-Assad le jour où il avait gazé. Obama s'y est opposé, donc on peut pas dire que il a été suivi par rapport à Monsieur Obama. Et quand François Hollande est intervenu au Conseil de sécurité, enfin aux Nations Unies au mois de septembre, il a indiqué que ça suffisait. Le bombardement d'Alep et qu'il fallait que la communauté internationale se ressaisisse. Et j'ai remarqué que M. Obama avait très mal pris cette leçon faite par la France aux États-Unis.
Un petit mot de la campagne présidentielle américaine. Quand vous voyez la violence de l'affrontement entre Donald Trump et Hillary Clinton...
Et le niveau.
Est-ce que ça vous rassure, au fond, sur la qualité de la vie politique française ?
Non, d'abord, ce qui ne me rassure pas, c'est le niveau de popularité de M. Trump, parce que c'est l'expression aux États-Unis de quelque chose que nous connaissons dans tout le monde occidental, c'est-à-dire la montée de la xénophobie, du nationalisme, et que c'est vraiment très dangereux. Hein. Alors après, le personnage a ses formules, elles sont peu ragoûtantes, évidemment, et pour se défendre, il en rajoute contre Madame Hillary Clinton. C'est pas très bon pour la démocratie en général et pour les États-Unis en particulier.
Le scénario d'une victoire de Trump vous paraît crédible ?
Les sondages disent qu'aujourd'hui, il n'est pas en capacité de l'emporter, mais quand même, 4 points de différence, c'est pas énorme dans un grand pays comme les États-Unis. Ça veut dire que malgré toutes ces déclarations, malgré l'agression contre tout le monde, et y compris la France au passage, les Américains, une partie des Américains, partage ce que dit Monsieur Trump.
Mais il est quand même arrivé jusque-là, Jean-Christophe Cambadélis.
C'est très exactement ce que je viens de dire.
Oui.
C'est très exactement ce que je viens de dire. Cela veut dire que pour moi, c'est une manifestation, comme dans un certain nombre d'autres pays, dans quelques jours ou dans quelques semaines, vous pouvez avoir un président autrichien d'extrême droite, où vous avez la montée de l'AFD en Allemagne, où la question du Front National en France. Il y a, dans le monde occidental, une montée de l'intolérance, de la xénophobie et de la peur du grand remplacement.
Voilà, c'est la fin de la première partie de Mardi Politique. On se retrouve dans quelques minutes avec notre invité, Jean-Christophe Cambadélis, sur RFI et France 24, et avec Roselyne Febvre, bien entendu, après un tour d'horizon de l'actualité. À tout de suite.
Et France 24 présente
Mardi Politique.
Retour dans Mardi Politique sur RFI et sur France 24 en compagnie de Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti Socialiste. Alors ce soir, Jean-Emmanuel Macron tient son deuxième meeting à Mans, et il continue son diagnostic de la France. Il vous énerve vraiment, Macron, non ?
Il m'énerve pas. Si. Je constate qu'il passe beaucoup de temps à un diagnostic. Et j'attends qu'il en tire des conclusions. Pour l'instant, ça ne vient pas.
C'est une bonne démarche. Quand on veut soigner un malade, il faut poser le bon diagnostic, non ?
Oui, mais il me semblait, je ne sais pas, ça fait un moment qu'il est au pouvoir. Il aurait pu se rendre compte quand il est au pouvoir des problèmes de la France.
Sa carrière politique est brève quand même.
Oh, il était conseiller de François Hollande depuis longtemps.
Deux ans.
Non, mais bon, voilà, qu'il le fasse. Moi, ça ne me gêne absolument pas qu'il fasse un rendu des questionnaires qu'il a fait.
Il l'avait traité de Kinder Surprise.
Ah oui, quand il a quitté le gouvernement, oui.
Ouais. Et vous aviez dit que vous sanctionneriez ceux qui s'afficheraient avec lui.
Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai dit la chose suivante. Je n'ai dit que les statuts du Parti Socialiste.
Oui.
C'est-à-dire que si nous avons un candidat, les socialistes, issus de la primaire, et si l'on soutient un autre candidat que celui qui est issu de la primaire, on n'est plus membre du Parti Socialiste.
Pour l'instant, donc, comme il n'y a pas...
j'étais la semaine...
Il n'y a pas de candidat officiel.
J'étais dimanche à Lyon avec Collomb, et nous avons fait meeting ensemble. Et dans tous mes meetings, il y a des proches ou des compagnons de route, puisqu'ils marchent, des compagnons de route de Macron.
S'il ne vous énerve pas, est-ce qu'au moins vous le redoutez un peu?
Mais pourquoi
est-ce que François Hollande le redoute ?
Mais vous savez, pour l'instant, Emmanuel Macron fait des scores dans les sondages, mais ne bat aucun dirigeant de la droite. Donc, je ne peux pas penser qu'il serait un substitut au candidat de la gauche, premièrement. Deuxièmement, je constate qu'il veut être ni de gauche ni de droite. Donc pourquoi voulez-vous que je m'intéresse à lui ? S'il était de gauche, il pourrait m'intéresser et me poser un problème. Mais comme il est ni de droite ni de gauche, et plus soutenu par la droite que par la gauche, ben pour l'instant, qu'est-ce que je constate ? C'est que ce mouvement de la droite sur Macron indique que la droite est plus friable que l'on veut bien le dire.
Mais il y a quand même un petit effet Macron, reconnaissez-le. Il prend la lumière, il ringardise un peu les autres hommes politiques d'aujourd'hui. Non.
Et les hommes politiques ont pris la lumière, ou les femmes politiques ont pris la lumière, ils sont légion. Le problème, c'est d'avoir un projet. Il va venir, puisque après le diagnostic, il fera le projet. Mais je ne crois pas que ça soit comme ça. On peut mesurer l'aura ou la dimension d'homme d'État sur le fait qu'ils prennent la lumière ou pas.
Est-ce que vous croyez sincèrement qu'il se présentera? Parce que ça, on va le savoir dans peu de temps. Mais on a l'impression qu'il tourne autour du pot parce qu'il attend. Il n'a pas envie de trahir quand même François Hollande, Macron. On voit qu'il a envie de faire des omelettes sans casser les œufs. Est-ce qu'il ira quand même si Hollande est candidat ?
Je crois que sa stratégie est limpide. Il ira si François Hollande n'y va pas ou si Alain Juppé est battu. Mais si les deux sont candidats, il n'a pas d'espace. Donc il en tirera les conséquences. Alors après, comment il en tirera les conséquences, je n'en sais rien. Mais aujourd'hui, sa stratégie, elle est de faire en sorte que François Hollande ne se présente pas. Parce que si François Hollande ne se présente pas, il est délié de sa relation avec Hollande. Et puis par ailleurs, il pense qu'il a un espace beaucoup plus grand pour pouvoir se présenter.
On va revenir à François Hollande et à sa candidature, hypothétique ou quasi certaine. Mais donc, on a bien compris que finalement, Macron, c'est pas trop votre sujet, c'est pas trop votre inquiétude. C'est plus Alain Juppé aujourd'hui qui vous inquiète.
C'est plus la droite, oui.
Oui. Et vous considérez qu'Alain Juppé est plus redoutable que Nicolas Sarkozy?
J'ai dit encore ce matin, j'étais dans le ni Sarkozy ni Juppé. J'ai, comme il a été dit tout à l'heure, attaqué assez violemment Nicolas Sarkozy après la sortie de son livre fin août, parce que j'estimais qu'il entraînait la droite très à droite. Ce faisant, il élargissait l'espace du Front National, que c'était un problème pour notre démocratie. Et aujourd'hui, j'attaque Juppé parce que je trouve que ce dernier est tout à la fois décentré par rapport à la droite sur la question de l'identité et très libéral sur la question du social vis-à-vis de la gauche. Donc j'ai caractérisé comme cela en disant qu'il était nulle part, et que ceci poserait un jour ou l'autre un problème. Mais je vois qu'il se complaît dans cette posture.
Alors, vous avez dit aussi que si Juppé gagne la présidentielle, Marine Le Pen risque de gagner les législatives. Est-ce que c'est pas pousser un peu le bouchon loin, un peu loin? Et surtout, il faudrait pour ça introduire une dose de proportionnelle. Vous savez bien, non. Marine Le Pen, elle n'arrivera pas comme ça au pouvoir, enfin, aux législatives,
non,
au Parlement.
C'est un résumé de mon propos. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire la chose suivante, c'est que j'étais intrigué par le fait que Marine Le Pen n'attaquait jamais Juppé. Elle attaquait Sarkozy, mais jamais Juppé. Donc je me dis, si elle attaque jamais Juppé, c'est qu'elle a une raison. Et sa raison, elle est assez simple, c'est qu'elle pense que Juppé est trop centriste. Et que Sarkozy battu, comme il a radicalisé la droite, ça donne à Marine Le Pen un plus grand espace. Je ne pense pas que pour autant qu'elle gagnera la présidentielle. Mais par contre, aux législatives, elle dira, si vous voulez vraiment des idées de droite et des droites dures, votez pour moi.
Mais ça serait encore pire si c'était la gauche qui gagnait.
Pas du tout.
Sarkozy battu. Et le candidat de gauche qui gagne l'élection présidentielle, Marine Le Pen, ferait encore un meilleur score à l'Assemblée nationale, non?
Parce que je pense qu'on ne peut pas combattre le Front National en étant sur ses thèses sur l'identité et en étant libéral sur l'économique et le social. Il faut être contre ses thèses sur l'identité, il faut être républicain, il faut être sur une ligne sociale, sur le social.
Je voudrais revenir un petit peu sur le cas François Hollande tout de même. Les résultats sur la croissance ne sont pas ceux qu'il attendait. Hein. Les prévisions, c'est 1,3 au lieu d'un 6. On a vu que le France Stratégie avait donné les résultats de 2014, certes, sur le CUCE qui n'a pas fait ses promesses. Et puis le chômage, cette courbe qui a quand même du mal à s'installer dans la durée. Dans le fond, quel va être l'argument de François Hollande pour dire « je me présente à nouveau devant vous, car voici mon bilan ».
Alors, il y a deux choses. D'abord, je ne présenterai pas le bilan comme vous l'avez présenté, mais ça c'est évident. J'indiquerai que la croissance, elle est là, parce qu'on n'était pas à ces chiffres-là précédemment, que nous avons réussi à...
Les prévisions sont d'un 3, pas d'un 6.
C'est des prévisions. Hein? Bon, donc on va pas se battre sur des prévisions, on va voir les résultats. Qu'ensuite les déficits ont été réduits, en particulier ceux de la sécurité sociale, ce qui n'est pas le cas de l'équipe précédente.
Grâce aux réformes de la droite,
les chômeurs.
Non, sur les retraites.
Non, je crois pas. Je crois que l'équilibre de la sécurité sociale, c'est dû à la politique qu'on a menée depuis 5 ans. Mais vous avez raison, ce n'est pas sur le bilan ou seulement sur le bilan que le président de la République peut fonder sa proposition d'un nouveau quinquennat. Il doit le faire par rapport à ce qu'il estime nécessaire pour la France et ce qu'il regarde et ce qu'il voit. Si il pense qu'il peut être utile dans une France qui petit à petit se délite, eh bien il dira en quoi et pourquoi.
Est-ce que vous n'auriez pas au fond besoin de l'alternance pour vous ressouder, pour vous réunir, parce que votre division aujourd'hui, division, elle est quand même très profonde. Écoutez ce que disait Arnaud Montebourg dimanche sur France 3.
Si c'est une erreur d'appréciation. Je vais vous dire, il n'était pas écrit que le quinquennat se déroulerait de cette manière. J'en ai été moi-même surpris, comme beaucoup de Français, des millions de Français. Et donc, rétrospectivement, je pense que j'ai fait une erreur.
Arnaud Montebourg, ce matin, chez nos confrères de France Info, vous entendez ? J'ai fait une erreur. Il l'a soutenu, il a été son ministre.
Il a le droit de le penser. C'est
mais qu'est-ce qui provoque une pareille déception ?
Mais vous me parliez des divergences ou des contradictions qu'il y avait au sein de la gauche. Et vous ne pensez pas en ce moment qu'il y en a à droite ? Vous avez vu avec quel ton ils s'apostrophent les uns et les autres ? Je trouve qu'Arnaud Montebourg est très distancié par rapport à l'événement. Il dit qu'il a commis une erreur. C'est bien de reconnaître que l'on a commis une erreur. Je pense que Martine Aubry appréciera, parce qu'à l'époque, s'il n'avait pas commis cette erreur, c'est elle qui serait présidente.
Mais par exemple, on parlait de Montebourg, mais il y a Hamon, il y a toute la gauche socialiste. Est-ce que justement, par exemple, pour prendre les résultats sur le CICE qui n'a pas tenu ses promesses, est-ce que ce n'est pas donné raison
Mais ce que dit fondeurs. Le texte sur le CICE, il ne dit pas simplement ça. Il dit que nous avons évité. Non, mais ce sera plus long terme. Mais nous avons évité avec le CICE, avec le pacte de responsabilité, 2 à 300 000 chômeurs de plus. Donc c'est déjà quelque chose d'important. Et deuxièmement, que les entreprises ont refait leur marge et qu'elles commencent à réinvestir. Donc si c'est la question essentielle pour moi du chômage qui n'a pas été réglé par le CICE et par le pacte de responsabilité, en même temps, cette politique a produit ses effets.
Et quel argument doit donner aujourd'hui pour dire aux Français « élisez moi, je suis le meilleur »
C'est la question, c'est un slogan.
Trouvez-moi un slogan pour Hollande.
Je ne trouverai pas de slogan pour Hollande, ce n'est pas mon rôle. C'est à lui de se déterminer s'il souhaite et de dire aux Français quel est son chemin.
Vous le croyez quand il exprime des doutes, quand il a dit il y a 8 jours au JDD, il y a encore une interrogation chez moi, en effet. Et si j'y participe, c'est pour gagner, pas pour figurer.
Je ne sais pas. Je dois vous dire que je n'ai pas d'éléments vous permettant de répondre sur cette question. Je crois qu'il chemine lentement vers une candidature.
Et s'il n'était pas candidat ?
S'il n'était pas candidat, nous n'aurions...
La gauche, ce que vous appelez la gauche de gouvernement, elle serait prête ?
Si je n'étais pas candidat maintenant, grâce à la décision du Parti Socialiste, que je m'honore d'avoir suggéré, nous aurons des primaires. Et donc, à partir de là, il y aura des primaires sans le président de la République.
Vous souhaitez, en tout cas personnellement, vous souhaitez, l'opération survie, c'est vous qui l'a menée. Comment comptez-vous l'aider, François Hollande, d'ailleurs ?
Je crois qu'il cédera lui-même et que quand il sera candidat, vous verrez que la situation ne sera pas du tout celle que l'on connaît jusqu'à présent. Parce que, réfléchissons dans 30 secondes. Au mois de février, nous aurons le paysage politique réel de l'élection présidentielle. Pour l'instant, tous les sondages, toutes les analyses sont hors sol. Vous ne savez pas qui est le candidat de la droite. Vous ne savez pas si Macron va être candidat. Vous ne savez pas le candidat de la gauche. Et vous ne savez pas ce qui va se passer à la gauche de la gauche parce que vous ne savez pas si Mélenchon va avoir ses signatures. Donc pour l'instant, il n'y a que des inconnus. Et sur la base de ces inconnus, on veut décider qui sera le président de la République. Et ben moi, je vous dis que si François Hollande est candidat, je pense qu'il peut emporter la primaire. Mais le 5 février, par exemple, quand la primaire est terminée, la primaire de la gauche, vous aurez un candidat de l'extrême droite, vous aurez un candidat de la droite, vous aurez un candidat de la gauche de gouvernement, et vous aurez un candidat de
l'extrême... Ce sera qui, la gauche de gouvernement, si Hollande n'y va pas ?
J'en sais rien, mais vous en aurez un. Et vous aurez un candidat de l'extrême gauche. À partir de là, les gens ne seront pas dans la supputation, ils seront dans un choix. Et ils feront un choix entre ces quatre-là. Voilà,
mais en vertu de votre analyse... les sondages qui donnent systématiquement Marine Le Pen au deuxième tour, vous paraissent-ils sujets à caution ?
Tous les sondages sont sujets à caution, parce que les gens veulent exprimer quelque chose à travers un sondage, c'est pas pour autant qu'ils voteront. On l'a vu, lors des élections départementales et des élections régionales, on mettait le Front National beaucoup plus haut. J'étais un des seuls à dire qu'il ne sera pas à ce niveau-là, et ils ne gagneront aucune région. Parce qu'une chose est de protester avec Marine Le Pen, autre chose est de gouverner avec Marine Le Pen. Et c'est le grand sujet qui lui est posé. Mais alors, si on lui pave le chemin en la dédiabolisant, en étant plus à droite qu'elle sur un certain nombre de sujets, en estimant que ce qu'elle dit, c'est juste, évident qu'elle va ramener un certain nombre d'électeurs à elle.
Pour les primaires à droite, Alain Juppé ne fait pas la différence entre les électeurs de droite et les électeurs de gauche qui voteraient donc aux primaires des Républicains. Et Sarkozy dit que ce serait un parjure que les électeurs de gauche votent aux primaires. Quel est votre avis ?
Bon, je crois que les deux prennent en compte ce que leur disent les sondages. Alain Juppé a, dans les sondages où on dit qu'il y aurait 7% d'hommes et de femmes et de gauche qui viendraient voter, ce que je ne crois pas. Et je crois qu'on est en train de faire une erreur d'analyse. 7%.
Vous, ça vous arrange pas parce que vous voudriez que ce soit Sarkozy qui sorte vainqueur des primaires.
Moi, j'ai fait la campagne de Lionel Jospin contre Chirac et Balladur. J'ai appris une chose, c'est qu'on ne choisit pas son adversaire, on cogne les deux. Bon, ouais. Donc c'est ce que je fais. Et on verra bien ce qui sortira. Mais je vous indique la chose suivante, c'est que dans l'électorat, dans les sondages de Alain Juppé, vous avez une forte part d'électeurs de gauche. Et s'ils ne viennent pas voter Et s'ils viennent, je vais vous dire pourquoi je vous dis ça. C'est s'ils ne viennent pas voter au premier tour, à l'évidence, ils pourraient venir voter au second. Mais s'ils viennent voter au second alors que Nicolas Sarkozy aurait fait un bon premier tour, ça va créer quelques problèmes à l'intérieur des Républicains. Parce que je crois, en ayant entendu ce qu'a dit Nicolas Sarkozy dimanche, qu'il ne veut pas se faire voler la victoire. Et vous allez voir que cette question-là des électeurs de gauche dans la primaire de la droite va avoir des retentissements sur la suite des Républicains.
Vous pensez quoi ? Que Sarkozy va dire la primaire a été déloyale, je me présente en dehors de la primaire ?
Je trouve qu'il est monté très très fort sur ce sujet, et ce n'est pas simplement pour effrayer les hommes et les femmes de gauche qui seraient amenés à voter, qui à mon avis seront trop peu nombreux, parce que ils ne peuvent pas préférer Alain Juppé sur le plan social.
Alors, vous savez que François Hollande aime bien se confier, il aime bien parler aux journalistes. Et il y a un bouquin qui sort demain, de nos deux confrères du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, qui s'appelle « Un président ne devrait pas dire ça ». Et il y a des choses qui vont sans doute faire beaucoup parler. François Hollande dit par exemple, dans ce livre, qu'il y a trop d'immigration, je le cite, qui ne devrait pas être là, qu'il y a un problème avec l'islam parce que, dit-il, c'est une religion qui veut s'affirmer dans la République. Est-ce que vous pensez que ces déclarations vont contribuer à placer ces questions identitaires de l'islam au cœur du débat présidentiel ?
J'ai l'impression qu'elles y sont.
Oui, mais est-ce que c'est le rôle du président de la République
deuxièmement, vous permettrez de lire dans quel contexte ces phrases ont été prononcées, et qu'est-ce qu'il y a avant et qu'est-ce qu'il y a après. Dire qu'il y a beaucoup d'immigrés, c'est quelque chose que beaucoup de Français peuvent partager. Dire que cette immigration, qu'il y a une religion qui veut s'imposer face à la République,
s'affirmer
face à la République, bon, c'est pas un sujet. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'islam est la dernière arrivée et qu'elle veut trouver sa place vis-à-vis de la ou dans la République. Bon, donc tout ça me semble un peu tiré par les cheveux, si vous me permettez l'expression.
Mais cette petite phrase est quand même, elle peut être comprise, elle peut être malheureuse. Enfin, elle peut être comprise.
La petite phrase, on l'a passée à Roselyne. Oui. C'est la femme voilée d'aujourd'hui sera la Marianne de demain.
Oui, mais derrière cette phrase, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'en fin de compte, la femme voilée va retirer son voile parce que la République va triompher. C'est ça, je partage. Mais parce que moi, vous savez, il y a deux attitudes. Soit vous avez confiance dans la République, dans ses idéaux, et vous pensez que vous êtes supérieur et que vous gagnerez ce combat à la fois idéologique et pratique. Soit vous estimez que c'est foutu. Et que c'est eux qui vont imposer leur loi, comme disent certains membres de l'extrême droite ou de la droite. Bien, je veux dire que, en fin de compte, et c'est très bien, le président de la République a foi dans la République.
Oui, le président de la République qui donne aussi une interview demain dans le Nouvel Obs. Alors je ne sais plus à vrai dire si c'est dans le livre ou dans le Nouvel Obs, mais il fait quelque chose qui ressemble à un mea culpa sur la déchéance de nationalité. C'est bienvenu, ça ?
Il ne fait pas un mea culpa. Il dit comprendre ce qu'ont ressenti les hommes et les femmes de gauche, parce que, de toute façon, il avait combattu cette position et qu'il n'avait pris la déchéance de nationalité, il n'avait repris la déchéance de nationalité que pour essayer de faire l'Union nationale. Donc c'est très bien, cette mise au point, cette mise au clair est très bien, parce qu'il y avait eu, à gauche, une incompréhension majeure sur ce sujet. Je pense que, dans la préparation possible à une candidature à l'élection présidentielle, il faut lever les doutes et les interrogations qui existaient à gauche.
Et exprimer éventuellement des regrets.
Je ne pense pas qu'il exprime
forme de
des
regret.
Regrets. Il dit qu'il y a une forme d'incompréhension, oui.
Oui, et d'ailleurs, François Hollande s'exprime dans le livre donc des deux journalistes du Monde. Je crois qu'il les a reçus un nombre de fois incalculable, des dizaines et des dizaines de fois. Est-ce que ce ne sera pas là un marqueur de François Hollande, l'homme qui aimait les journalistes et qui, on peut considérer qu'il passait beaucoup de temps avec eux, on a envie de se demander pourquoi.
Plaignez-vous, il aime les journalistes, je ne vois pas pourquoi vous allez vous en plaindre. Mais, non, mais je vous ferai remarquer que François Mitterrand avait installé dans son, juste à côté de son bureau, un conseiller qui écrivait des verbatims tous les jours sur ce qu'il faisait. Et qu'il recevait les journalistes de l'AFP pour chaque jour discuter avec eux de son action. Et que le général de Gaulle recevait Focard pour la même raison. Bon, ça.
Oui, bon.
Bon.
C'est la fin de cette émission. Merci Jean-Christophe Cambadélis. Merci Roselyne. Merci à Pauline Hellman, Audrey Attoni et à l'ensemble de l'équipe technique. On se retrouve dans une semaine, enfin rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mardi Politique. Bonsoir.
Bonsoir, merci.
Bonsoir.
Bonjour à tous.